À la fin, le parti annonça que 2 plus 2 faisait 5 et que vous deviez le croire.
Depuis la campagne du Brexit, la présidence de Donald Trump, cette phrase de 1984 de George Orwell résonne un peu trop juste. Maintenant, il peut y avoir jusqu'au plus haut niveau de l'État des faits alternatifs.
Alternative facts to that, but the point remains.
Alternative facts? Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods.
On parle même de vérité alternative, c'est-à-dire d'une vérité différente de celle qui a pourtant été appuyée par la science ou la justice. Par exemple,
Biden n'a pas vraiment gagné les élections. Les dinosaures coexistaient autrefois avec les humains. La Terre est plate. Les vaccins provoquent l'autisme. Les humains ne sont pas responsables du changement climatique. Vous le saviez pas? Mais c'est parce qu'ils nous cachent ces vérités.
Ils?
Bah les médias, les élites, le système, quoi.
En fait, la vérité alternative, c'est un peu la vérité de ceux à qui on la fait pas. Je suis longtemps restée dans l'incrédulité face à ce glissement qui s'opérait dans les cerveaux. Les théories du complot m'arrivaient par des vidéos sur Internet. En les visionnant, j'éprouvais le même mélange d'attirance et de répulsion que quand on regarde une télé-réalité à la confession intime. C'était loin de moi. Mais quand le Covid est arrivé, tout a changé.
Pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque. Aujourd'hui, le masque bleu ne protège de rien.
Quand le Covid est arrivé, les vérités alternatives ont plus que jamais proliféré. Et ça a été d'autant plus déstabilisant que ce sont des prix Nobel, des ministres, des médecins connus qui en ont été les auteurs ou les vecteurs enthousiastes.
Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Vous travaillez en ce moment sur le virus et vous êtes arrivé à certaines conclusions.
Alors, arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. Il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. À ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida.
À l'époque, moi, mes amis, ma famille, on n'avait pas du tout le bagage scientifique pour savoir ce qui était peut-être une vérité scientifique et ce qui ne l'était sûrement pas. Alors on a fait ce qui nous semblait à chacun chacune le plus raisonnable. Sauf que on avait des conceptions du raisonnable très différentes. Et ça a créé des tensions, des clashs. À un moment où on avait plus que jamais besoin de se serrer les coudes et de rester connecté. Le clash le plus dur pour moi, ça a été avec ma meilleure amie. Alors qu'on vivait à 35 km l'une de l'autre, on a passé des mois sans se voir. Elle tenait à rester la plus confinée possible, même en dehors des confinements officiels. Elle s'informait à la radio, avec le journal télévisé, et elle entendait le nombre de morts qui restait impressionnant, les gens connus qui décédaient, elle avait peur. Moi, ces informations, je les avais aussi. Mais à l'époque, j'avais aussi commencé à faire des renforts SAMU en tant que secouriste. On transportait à l'hôpital des personnes infectées par le Covid, et j'avais appris qu'avec le masque FFP2, les lunettes, les gants, la fenêtre de l'ambulance ouverte, un nettoyage soigné, et puis du gel hydroalcoolique, en étant bien rigoureuse, on pouvait ne pas se contaminer. Mon amie, elle, n'avait pas cette expérience. Elle avait l'expérience qu'en restant chez elle, elle n'avait rien attrapé. Elle voulait continuer comme ça. Au bout d'un an à n'échanger que par texto, j'ai vraiment insisté pour qu'on aille faire une balade en chair et en os sur la plage. J'y tenais vraiment, elle me manquait. J'ai argumenté.
Si on se voit en extérieur, à 2 bons mètres de distance l'une de l'autre, avec un FFP2 chacune, on risque pas grand-chose.
Mais rien à faire. Elle n'a pas voulu prendre ce risque, elle a refusé qu'on se voie. Ça m'a blessée. Et ça l'a blessée que je la comprenne pas. On s'est fâchés, et on ne s'est plus parlé. Le serment d'Augusta, épisode 5. J'irai chercher un peu plus loin la vérité. Il n'y a pas que mon ami et moi que le Covid a brouillé.
Vous nous refaites le coup, à ce qui va se passer dans 15 jours ou 3 semaines.
Le coup des prédictions apocalyptiques de Pasteur, celles de Neil Ferguson, certes, sur lesquelles vous nous avez annoncé les 500 000
morts. Mais nous, au moins, on travaille, plutôt que de dire n'importe quoi, comme ce que vous dites en permanence.
Messieurs, ne vous jetez pas d'anathème.
Professeur Perron, infectiologue.
On continue à nous dire que la deuxième vague arrive, c'est n'importe quoi.
Moi, j'ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en 2 mois. Non. Ça a été fait à la va-vite chez quelques centaines de personnes.
38 955 patients ont été sélectionnés fin juillet et divisés en 2 groupes égaux.
Les gens qui disent que ça peut modifier définitivement nos chromosomes, nos gènes et éventuellement transmettre ces anomalies à nos enfants.
Un étudiant de deuxième année de biologie vous explique que ce virus ARN, qui est un tout petit bout synthétique, ne peut pas rentrer dans aucun génome humain. Ça s'appelle une fake news.
Quand on est saturé d'informations, quand on est exposé non-stop à une survisibilité d'experts et d'expertes aux opinions contradictoires, on peut finir par avoir l'impression que tout se vaut et être tenté de s'en remettre à son intuition. Le professeur et chercheur en psychologie américain Andrew Stuhlman étudie comment on forme ces nouvelles croyances liées à la science. Il explique que notre première tentative de compréhension des phénomènes qui nous entourent repose sur un réseau de croyances de cause à effet. Ces théories intuitives sont utiles parce qu'elles nous permettent de donner un sens à des phénomènes qui nous laisseraient autrement perplexes. Couler, flotter, brûler, geler, croître, mourir. Mais elles nous empêchent aussi d'apprendre des théories scientifiques plus précises sur ces mêmes phénomènes et peuvent même nous aveugler lorsqu'une contre-preuve nous est présentée. Et c'est là que ça devient un problème pour Andrew Stuhlman. Car si nous sommes si réceptifs aux faits scientifiques alternatifs, c'est parce qu'ils nous semblent complètement sensés. Et même, ce sont les faits avérés de la science qui défient notre bon sens.
C'est vrai que c'est pas forcément immédiat de comprendre que des gestes aussi simples que mettre un masque ou se laver les mains vont faire la différence. Ou de se dire qu'une maladie qui ressemble à la grippe dans ses formes bénignes va faire 15 millions de morts, c'est pas du tout intuitif.
Gérald Bronner est une figure clé de la sociologie cognitive. Il écrit depuis 20 ans sur les croyances radicales. Dans ses livres « Pensées extrêmes » et « Déchéance de rationalité », il montre comment les croyances même les plus incroyables peuvent prendre racine dans nos esprits et finir par sembler rationnelles. Il revient ainsi sur son travail auprès d'une secte bouddhiste dont les membres croyaient que le gourou était capable de faire léviter les éléphants. Les raisons pour lesquelles les éléphants léviteraient ont une cohérence. Paradoxal, certes, mais une cohérence. Si vous riez au nez d'un ou d'une membre de la secte, il ou elle ne manquera donc pas de vous répondre. Gérald Bronner propose plutôt de remettre en cause les bases mêmes du système de représentation de la personne fanatique et de l'éveiller à quelques points de méthode et de pensée analytique qui lui ont fait défaut lors de l'adhésion à ses croyances. Des années plus tard, Gérald Bronner intervient au sein du premier centre de déradicalisation français, ouvert après les attentats de Charlie Hebdo. Il s'y rend avec l'intention d'éveiller l'autonomie cognitive des pensionnaires. Là où les jeunes radicalisés croient percevoir le réel dans toute sa brutalité, par exemple ils sont convaincus que l'État français persécute les musulmans, Gérald Bronner veut mettre au jour avec elles et eux les mécanismes mentaux, les erreurs cognitives par lesquelles les représentations se font dans leur esprit. Parmi ces erreurs cognitives, il y a celles qui nous font établir un lien de cause à effet, là où il n'y a pas de démonstration scientifique. Il y a celles qui nous poussent à surestimer des faits spectaculaires, mais fort rares. Il y a celles qui nous font négliger la taille de l'échantillon ayant servi à établir une information. Gérald Bronner cite ainsi l'exemple d'un prestidigitateur dans les années 70, Uri Geller, qui annonce en direct à la radio être capable d'arrêter les montres au simple son de sa voix. Et en effet, de nombreux auditeurs et auditrices ont témoigné de ce pouvoir en appelant la station au téléphone. Et c'est un immense succès pour le magicien. Bon, sauf que, à cette époque, il fallait remonter les montres tous les 10 jours. Or, chacune de ces émissions de radio était écoutée par 200 000 auditeurs et auditrices durant 30 minutes. Il aurait été extraordinaire qu'aucune montre ne s'arrête durant ce laps de temps.
Il y a les erreurs cognitives, mais il y a aussi l'émotionnel qui joue un rôle important. Quand la pandémie a commencé, on a eu très peur. Et les vérités alternatives entrent dans la faille de la fragilité. Et quand on a peur, on a envie de se tourner vers une vérité qui nous rassure, vers des certitudes aussi. Et peut-être aussi que la vérité alternative est une part de notre liberté et qu'on en a tellement manqué aussi. Alors, on a eu une pandémie de crédulité.
Vous dites, je ne suis au courant de rien. J'ai pas été voir et j'ai vu simplement sur les réseaux sociaux. Oui. C'est pas suffisant.
C'est pas suffisant. Pardonnez-moi de le dire.
C'est de la chiromancie, c'est pas du journalisme.
Et même si on n'est pas spécialement crédule, on sait depuis les années 70 que la science avance aussi grâce aux intérêts et aux ambitions personnelles des scientifiques.
Résumé. Le champ scientifique, univers apparemment pur et désintéressé de la science, est un champ social comme un autre, avec ses rapports de force et ses monopoles, ses luttes et ses stratégies, ses intérêts et ses profits. Espace de jeu qui a pour enjeu spécifique la lutte contre le monopole de l'autorité scientifique, prestige, reconnaissance, célébrité, etc. Le champ scientifique doit a toujours pour enjeu le pouvoir d'imposer la définition de la science la plus conforme à ses intérêts particuliers.
Pierre Bourdieu se serait peut-être bien marré en voyant ce qui s'est joué sous le feu des projecteurs de plateau télé.
Pour le mois de juillet,
il n'y en a pas eu.
Alors il se passe quelque chose que je vais vous montrer.
Grand spécialiste du Covid, qu'est-ce qui se passe?
Je vais vous montrer, mais c'est du très haut niveau, continuez. Bah oui, ça s'appelle...
Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement.
Ça vole un peu trop bas pour moi.
En assistant à ce type de joute entre médecins, j'imagine que certaines personnes ont pu prendre tout ça pour de l'incompétence.
Vous êtes des porte-paroles
de la peur, de la pandémie de la peur. On tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants, on tue tout le monde.
70% des personnes en réanimation sont non vaccinées.
Pas vrai, mensonge.
Faux d'état.
Mensonge.
Perroquet. Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur.
Certaines en sont même venus à se dire que le travail scientifique était filtré, récupéré, dévoyé par le politique, par le système. Il y a une étude de janvier 2022 du CEVIPOF, le baromètre de la confiance politique, qui montre que 82% des Françaises et des Français font confiance à la science. Jusqu'ici, tout va bien. Mais 64% estiment que le bon sens est souvent plus utile que les connaissances scientifiques. Dans ce contexte de perte de confiance, la tension est montée. Des médecins ou des scientifiques impliqués dans la recherche sur le Covid-19 ont reçu des insultes, des menaces, parfois des menaces de mort. La revue britannique Nature a interrogé 321 scientifiques ayant fréquemment discuté du Covid-19 dans les médias. Et 81% ont révélé avoir subi des intimidations personnelles, au moins occasionnellement, 25% de façon fréquente ou constante.
J'ai l'impression que la vérité scientifique ressort affaiblie de la pandémie. Après avoir été invitée et chahutée sur tous les plateaux télé, après toutes ces paillettes autour d'elle, elle a la gueule de bois.
C'est vrai que tant qu'à faire d'être à fond dans la santé spectacle, ça aurait été tellement bien de saisir l'occasion pour expliquer comment les recherches se faisaient.
Mais oui, en fait, la science n'a jamais été aussi présente dans le flux d'informations. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'une occasion manquée. On aurait pu en profiter pour expliquer comment la science se fabrique. La science a bien des règles, des méthodes et une somme de connaissances consensuelles qui constituent sa substance et sur lesquelles on s'appuie pour la faire progresser à nouveau. Mais elle contient en elle-même le principe d'une diversité qui doit être transparente, déclarée et qui doit certainement être encouragée.
Justement, j'aimerais qu'on rembobine. J'aimerais expliquer comment on aurait pu le faire sur le moment. Comme des gens comme toi, Emmanuel, me l'ont expliqué plus tard. Parce que c'est possible, et puis c'est passionnant, de donner à chacun chacune les moyens de comprendre ce qui se passe dans la science en mouvement, sans se disputer. Pendant la pandémie, les essais thérapeutiques ont commencé rapidement. Quand on construit un essai thérapeutique, on recherche d'abord la qualité de la preuve et ce qui va avec, la réduction des biais. Le premier outil pour ça, c'est le tirage au sort. On appelle ça la randomisation. Le patient va soit participer dans le groupe qui reçoit un traitement actif,
on appelle ce groupe un bras,
soit dans le groupe ou bras qui reçoit un traitement sans efficacité pharmacologique, par exemple une gélule de sucre ou une injection d'eau saline.
Et ça, c'est le bras placebo.
La plupart des essais randomisés comportent ainsi deux bras, mais certains peuvent en comporter trois, même plus, pour tester simultanément plusieurs traitements. Ce que la randomisation permet, c'est d'avoir des bras comparables. Elle évite les biais de sélection et de confusion. Après la randomisation, l'autre outil, c'est l'aveugle. Soit simple aveugle, quand le patient ne sait pas le traitement qu'il prend, soit double aveugle, quand ni le patient ni le médecin ne savent quel est le traitement pris par un patient. La procédure d'aveugle vise à éviter les biais de mesure liés à la subjectivité du patient et ou du médecin investigateur. Quand il n'y a pas d'aveugle, on parle d'essai en ouvert. Bon, maintenant qu'on a posé ça, la question suivante c'est
« Ok, mais si tout le monde suit des méthodes hyper cadrées, pourquoi peut-il y avoir débat scientifique ?»
En fait, même quand on s'inscrit dans le cadre hyper normé qui permet de créer de la connaissance scientifique, il y a une dynamique qui est toujours à l'œuvre entre, d'une part, la recherche de pertinence et, d'autre part, le besoin de robustesse. La pertinence, on l'évalue au regard des attentes de la société. Quand ça clash sur les plateaux télé pendant la pandémie, les partisans de la pertinence clament.
Non mais là, il faut réagir en fait, c'est trop important.
Oui, évidemment, il faut soigner en premier.
La robustesse, c'est se demander.
Est-ce que cette recherche, est-ce que ces essais thérapeutiques se conforment à une méthodologie rigoureuse ?
Quand ça clash, les partisans de la robustesse demandent à corps et à cri.
Mais en fait... Pour faire les bons choix, il faut élever le niveau de preuve.
Oui, bien sûr. Quitte à ce que ça prenne du temps.
Et oui, bien sûr.
C'est aussi simple que ça.
Pour produire une recherche scientifique fiable, on a besoin à la fois que la recherche soit robuste, mais aussi que ses connaissances nous apportent collectivement quelque chose, qu'elles soient pertinentes. Mais parfois, les deux principes sont difficiles à concilier. Pendant la crise sanitaire, par exemple, on a eu une temporalité discordante entre, d'une part, l'urgence de la situation sanitaire, il fallait pouvoir trouver un traitement rapidement, et d'autre part, la nécessité de prendre le temps d'une recherche rigoureuse. Alors, certaines équipes de recherche vont choisir. Elles vont placer le curseur plutôt un peu plus vers la robustesse, ou plutôt un peu plus vers la pertinence. Voici un cas pratique. Il provient d'un article écrit par des chercheurs de l'Université Paris-Sud. Ils prennent l'exemple de 3 essais de traitement anti-Covid menés pendant la première vague en France. Les 2 premiers sont des essais interventionnels, c'est-à-dire qu'on intervient, avec un traitement par exemple, spécialement pour la recherche. e-Covid est un essai randomisé, en double aveugle, qui teste l'hydroxychloroquine versus un placebo. Cette approche est l'une des plus robustes et peut être considérée comme le gold standard de l'essai thérapeutique. Elle s'appuie notamment sur la simplicité et sur la minimisation des biais. Et puis, il y a Discovery. Discovery est un essai randomisé, en ouvert, comparant l'utilisation de différentes combinaisons médicamenteuses. Ces 2 essais, e-Covid et Discovery, ont globalement privilégié la robustesse. Ils ont voulu en premier lieu apporter une preuve scientifique de qualité. e-Covid a privilégié la simplicité et la réduction des biais avec seulement 2 bras et le double aveugle. Du côté de Discovery, c'est la portée générale qui a été privilégiée en explorant plein d'options. Mais l'essai en ouvert a été une façon de gagner du temps dans le contexte d'explosion épidémique. Donc c'était plutôt un arbitrage qui penchait pour la pertinence sur ce point. Le 3e essai, c'est celui qui a été mené à l'IHU Méditerranée. Tous les patients étaient soignés avec des médicaments existants déjà, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Ces médicaments existent et c'est légal de les prescrire. En revanche, comme la maladie est nouvelle, ils sont en dehors des conditions inscrites dans leur autorisation de mise sur le marché, donc c'est plus risqué. L'essai de l'IHU s'est positionné comme une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'il notait et analysait rétrospectivement l'effet observé de ce soin dans des conditions non standardisées pour la recherche, c'est-à-dire en vie réelle, dans le cadre du soin. Cette étude IHU Méditerranée a une approche différente des 2 essais e-Covid et Discovery. Elle a opté pour la pertinence, en considérant qu'il fallait plutôt proposer du soin rapidement, tout en essayant d'en retirer des informations de recherche. Du coup, la qualité de preuve est nécessairement inférieure, parce qu'il n'y a pas d'aveugle, il n'y a pas de groupe contrôle, et puis il manque une certaine standardisation. Mais c'est une stratégie qui est plutôt choisie quand on postule fortement une efficacité du traitement testé.
C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout, la moins. Et donc, ce n'est pas la peine de s'exciter. La seule chose que je vous dis, faites attention, il n'y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies.
L'étude observationnelle de l'IHU Méditerranée rentrait bien dans le cadre d'une étude scientifique à bas niveau de preuve. Mais quand Didier Raoult s'est mis à brandir les résultats de son étude comme une conclusion définitive, en faisant peu de cas des autres données existantes, là, on est sorti des clous. Un autre point intéressant lorsque l'on compare ces trois essais thérapeutiques, c'est qu'ils ont eu une appréciation différente de l'équilibre clinique, ou équipoise clinique, ou équipoise.
Je m'appelle Juliette Ferri-Danini, je suis docteur en philosophie de la médecine et actuellement je suis chercheuse, chargée de recherche à l'Université catholique de Louvain. Les chercheurs en éthique médicale dans les années 70-80, ils ont été mis devant le fait accompli de la recherche médicale. Ils ont vu qu'on faisait des essais contrôlés randomisés, on mettait des gens dans deux groupes différents, un groupe recevait le médicament, l'autre ne recevait pas le médicament, recevait un placebo. Et ça, les chercheurs en éthique médicale, ils se sont dit, ben, ça pose un problème éthique. Pourquoi ? Ben, parce que si le médicament il marche, et ben, le groupe qui ne reçoit pas le médicament est lésé. Et d'un autre côté, si le médicament ne marche pas, ben, le groupe qui reçoit le médicament est celui qui sera lésé.
En effet, un médecin n'a pas d'autre choix moral que de toujours donner le meilleur traitement possible à ses patients. Comment cela peut-il être éthiquement compatible avec des essais thérapeutiques sur deux bras, voire plus ?
Et c'est là qu'un chercheur qui s'appelle Benjamin Friedman a proposé ce concept d'équipoise. Finalement, si le chercheur qui fait cet essai clinique ne sait pas si le traitement fonctionne, donc finalement il ne sait pas si le traitement sera supérieur au placebo, du coup il n'est pas en train de léser ni l'un ni l'autre. Sauf qu'évidemment c'est impossible que, en tant que chercheur, on soit totalement dans une situation d'incertitude. Si on fait un essai clinique, c'est qu'on pense que le traitement a des bonnes chances d'être efficace. Et du coup, ce qu'il introduit, c'est l'idée que l'incertitude, elle ne doit pas être au niveau de la personne, le scientifique qui fait l'essai clinique, mais au niveau de la communauté des scientifiques. En gros, c'est l'idée que la communauté scientifique ne sait pas si, à la fin de cet essai, celui qui a pris le placebo sera lésé ou pas. Et donc, ça, moralement, on peut le faire.
Les investigateurs d'e-Covid et de Discovery ont considéré qu'ils étaient dans la situation d'équipoise. L'incertitude de la communauté scientifique était en équilibre. Elle ne penchait ni d'un côté, ni de l'autre des différentes pistes étudiées. Aucun bras d'essai n'allait donc être lésé. L'équipe IHU Méditerranée a considéré en revanche qu'il n'y avait pas de véritable incertitude sur le bénéfice du traitement expérimental par hydroxychloroquine plus azithromycine versus la prise en charge habituelle.
Pendant la crise de Covid-19, imaginons, on a un chercheur qui pense savoir que le médicament qu'il est en train de tester fonctionne, c'est sûr, il est certain. Et il pourrait se dire, ah ben du coup je ne fais pas d'essai contrôlé randomisé, je ne fais qu'un groupe parce que sinon ça voudrait dire que je ne soigne pas, que je lèse des personnes du groupe contrôle. Est-ce qu'il pourrait faire ça ? En tout cas là, au niveau de la communauté de l'éthique médicale, on pense que non, parce que en fait il peut être persuadé en son nom propre, individuel, mais si la communauté scientifique est dans une situation d'incertitude, il devrait faire un essai avec deux groupes, un essai contrôlé randomisé. Le fait qu'il soit persuadé que son traitement fonctionne ne l'absout pas de regarder le reste de la communauté et ça va lui donner une boussole éthique pour savoir ce qu'il faut ou pas faire.
Benjamin Friedman ajoute en effet qu'il faut que l'essai clinique soit mené de façon robuste pour espérer que les résultats de l'essai aient un effet sur l'équipoise. Autrement dit, un essai clinique doit permettre à la communauté scientifique d'espérer un progrès vers un consensus au sujet de l'efficacité et la sécurité d'un traitement. Tout essai clinique qui serait conduit négligemment n'est pas éthique. Or, avec une maladie au taux de létalité relativement faible, comme le Covid, on peut se poser la question que le tout premier théoricien de la médecine expérimentale, Claude Bernard, posait il y a plus de 150 ans.
Comment savoir si c'est le remède ou la nature qui a guéri ?
La quasi-totalité des personnes traitées pendant la recherche de l'IHU Méditerranée aurait sans doute guéri spontanément, sans intervention. Plus problématique encore, comment s'assurer que le traitement n'a pas eu des effets négatifs qui viendraient contrebalancer les éventuels bénéfices ?
Une question que je me suis posée, c'est est-ce que l'urgence de la situation peut ou doit changer les règles habituelles de production des connaissances scientifiques ? On aurait pu se dire que la pandémie était en quelque sorte le lieu d'une opération de secourisme et qu'il fallait agir vite. Sauf que, un secouriste dirait plutôt que c'est justement dans l'urgence qu'il faut se raccrocher au protocole. Une idée largement répandue serait que la recherche scientifique sacrifie des patients sur l'autel de la science. En fait, ça serait même plutôt l'inverse, puisque les essais apportant un fort niveau de preuve et comportant évidemment un groupe contrôle permettent de s'assurer qu'un nouveau traitement n'aggrave pas la situation des patients à cause de ses effets secondaires. En fait, il faut se défaire de la tentation de la balle magique, c'est-à-dire d'un traitement très efficace, ciblant parfaitement la pathologie sans produire aucun effet secondaire. Les balles magiques, en fait, c'est très rare en médecine.
Les arbitrages entre pertinence et robustesse font partie du travail scientifique. C'est normal que les appréciations soient différentes d'une équipe à l'autre et en fonction du contexte. La diversité des approches et le débat sont positifs, puisque, une fois pris en compte l'ensemble des résultats obtenus, on obtient une meilleure fiabilité collective.
Il y a un autre facteur qui impacte la production de la science, c'est la société. Tu vois, par exemple, un des gestes barrières que l'on met le plus en avant, et à raison, c'est le lavage des mains. Et bien justement, je voudrais vous raconter l'histoire de la découverte scientifique du lavage des mains. En 1846, Ignaz Semmelweis est chef de clinique à l'hôpital de Vienne. Il étudie les causes de la fièvre puerpérale qui entraîne le décès de nombreuses femmes après l'accouchement. Tout d'abord, il constate que l'exposition à cette maladie est différente dans deux pavillons hospitaliers distincts. Au fil des ans, on a accusé la lune, le froid, la brutalité des étudiants, la moralité douteuse des filles-mères et même la clochette des prêtres venus administrer l'extrême onction. Un jour, il comprend. Les étudiants en médecine qui aident aux accouchements viennent souvent après des séances de dissection de cadavres, car la salle de dissection est juste à côté. Ils transmettent ainsi les germes des cadavres aux patientes au cours de l'accouchement. C'est ainsi que le monde entier aurait dû apprendre à se laver les mains. Sauf que ça a un peu tardé. Malheureusement, Semmelweis ne parvient pas à obtenir l'adhésion de ses pairs. Parce que ses idées sont révolutionnaires, parce que sa personnalité est rugueuse et parce que ses liens avec ses pairs sont difficiles. Au contraire, malgré le résultat spectaculaire du lavage des mains qui réduit drastiquement le taux d'infection, il est finalement marginalisé et doit quitter l'hôpital de Vienne. Il devient une sorte de médecin errant, au point de finir sa vie interné dans un établissement de santé mentale. Il a probablement été le premier à toucher du doigt le concept de microbe et à comprendre l'importance de l'hygiène. Mais il a fallu du temps pour que sa découverte s'installe dans le savoir collectif.
La tragédie qu'a vécue Ignaz Semmelweis nous raconte à quel point le facteur social peut être déterminant dans l'établissement de la vérité scientifique. À quel point la vérité scientifique est aussi une construction sociale.
Il y a un travail très intéressant qui a été réalisé par le sociologue Bruno Latour à la fin des années 70, hein, qui a donné un livre qui s'appelle « La vie de laboratoire ».
Claire Delnat est une ancienne élève de l'École normale supérieure et elle est enseignante de philosophie de l'Académie de Paris.
Bruno Latour, il va s'immerger complètement dans la vie d'un laboratoire de neuro-endocrinologie. Il va y passer 2 ans, il va se positionner vraiment en ethnologue. C'est celui qui étudie une culture, une société qui n'est pas la sienne. La Tour montre que la recherche est un univers très concurrentiel et que ce qui détermine la publication d'un article et la reconnaissance par la communauté scientifique d'un nouveau fait ou d'un nouveau mécanisme n'est pas seulement déterminé par les qualités intrinsèques du travail qui a été fourni, mais aussi par des facteurs sociaux. La science ne se fait pas toute seule, même si au fond, une science qui se ferait toute seule, c'est exactement l'idéal d'objectivité que visent les scientifiques. L'activité scientifique s'inscrit dans un contexte social et les vérités scientifiques ne sont pas comme ça des espèces d'idées qui flottent dans l'air, mais elles sont bel et bien construites, produites et validées, reconnues par une communauté scientifique. Et tout ça, hein, ça, c'est des processus qui sont de part en part sociaux, socialement déterminés, et il faut en avoir conscience. Pour penser l'inscription peut-être de la vérité scientifique et de la recherche scientifique dans un contexte social, le penseur qui est très intéressant, c'est Thomas Kuhn, qui a montré que la recherche scientifique est tributaire de ce qu'il appelle un paradigme, c'est-à-dire d'un univers mental, on pourrait dire, constitué d'un certain nombre de croyances, d'hypothèses, de méthodes.
Pendant la pandémie, il y a un autre aspect important de la vérité scientifique qui est apparu. C'est que la vérité des hypothèses scientifiques ne peut pas être établie de façon absolue dans les sciences empiriques, c'est-à-dire les sciences basées sur l'observation et l'expérience, comme par exemple les sciences biomédicales. En fait, la vérité scientifique, elle est intrinsèquement ambiguë, incomplète et transitoire. On peut la voir plutôt comme une perpétuelle ébauche de vérité qui progresse typiquement au moyen de réfutations successives.
Cette idée de réfutabilité, on la doit à un philosophe des sciences qui s'appelle Karl Popper. Il faut d'abord comprendre la manière dont on a longtemps conçu la démarche scientifique. Par exemple, si jusqu'à maintenant tous les signes que j'ai vus sont blancs, ça ne me garantit nullement que tous les signes, même ceux que je n'ai pas vus ou ceux que je verrai dans l'avenir, seront blancs. Il suffit d'un seul signe noir pour réfuter l'hypothèse que tous les signes sont blancs. L'idée de Popper, c'est que plus j'échoue à réfuter mon hypothèse, plus mon hypothèse est robuste. Et là, on voit bien ce caractère provisoire de la vérité, puisque une hypothèse, une théorie qu'on ne parvient pas à réfuter, c'est une théorie qui est de plus en plus corroborée, de plus en plus robuste, mais qui sera toujours par définition pour Popper donnée à titre d'essai, puisqu'on ne peut pas exclure qu'elle soit réfutée un jour.
D'autres éléments ont apporté de la confusion autour de la vérité scientifique pendant la période de la crise du Covid et ils incitent à la réflexion. Alors pour commencer, on a assisté à la prolifération de l'ultra-crépidarianisme sur la place publique, soit spontané, soit incité par un emballement médiatique et la recherche du buzz. Ultra-crépidarianisme, ça caractérise la propension à donner son avis de façon assertive sur un sujet pour lequel on a peu de compétences légitimes. Ce mot, je le trouve amusant, il vient du proverbe latin « Sutor ne supra crepidam ». Et ça veut dire
« Cordonnier reste au niveau de la sandale ».
En filigrane, il y a le défaut d'humilité intellectuelle. Et si on ramène ça au contexte de la crise du Covid, tel que théorisé par le physicien et docteur en philosophie des sciences Étienne Klein, ça donne
« Je ne suis pas médecin, mais je suis d'avis que… »
Bon, et puis les humains, ils ont une tendance démontrée à surestimer leurs connaissances, précisément dans les domaines où ils en ont peu.
L'effet de Dunning-Kruger, c'est un effet qui a été mis en évidence par des psychologues. Au début, quand on commence à lire des choses, à se renseigner, à s'intéresser à un domaine, on a rapidement l'impression de le connaître, d'en avoir fait le tour, etc. Et que, au fond, si on continue à creuser, mais c'est ça qui est problématique, c'est beaucoup de gens ne s'arrêtent. Si on continue à creuser, on prend la mesure de tout ce qu'on ne sait pas, au fond, de tout ce qu'on ignore. Et c'est ça la vraie connaissance, et à mon avis, c'est ça le vrai esprit scientifique, c'est la conscience de ce qu'on ne sait pas. Et on en a beaucoup parlé de cet effet de Dunning-Kruger à l'occasion du Covid, puisqu'il y a eu énormément de pré-publications d'articles scientifiques. Hein. Des gens sans formation scientifique particulière se sont mis à lire frénétiquement ces articles et se sont forgés des avis très arrêtés sur le Covid, pensaient tout savoir sur le Covid.
L'effet Dunning-Kruger est un biais cognitif qui a touché le grand public, les journalistes, les gens qui connaissaient peu le sujet du Covid. Mais les scientifiques ont-ils aussi fait des erreurs en raison de biais cognitifs ?
Je m'appelle Olivier Sibony, moi je suis professeur de stratégie à HEC Paris et j'ai écrit un certain nombre de livres et d'articles sur le jugement en général et l'erreur de jugement et en particulier sur le rôle des biais cognitifs dans le jugement. Un biais cognitif, simplement, c'est une erreur moyenne, une erreur partagée, une erreur qu'on va avoir tendance à commettre. Et donc le biais, c'est quand on a une erreur partagé, qui s'explique par une cause, et donc prévisible. Quand vous demandez à Daniel Kahneman, le psychologue américain qui est considéré avec Amos Tversky comme le découvreur de ce phénomène des biais cognitifs, si on peut dire, quand vous lui demandez s'il est mieux protégé contre les biais cognitifs que les autres, il vous dit « mais pas du tout, ça fait 40 ans que j'étudie les biais cognitifs, ou 50 maintenant, et je fais autant d'erreurs que tout le monde, et je fais les mêmes, parce que c'est justement une composante de la nature humaine. Il ne suffit pas de se dire qu'on est un scientifique pour être protégé contre les biais cognitifs. » Quand on voit arriver cette maladie qui n'a pas encore de nom, qui s'appelle pas encore le Covid, on a tous besoin de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc ? On a besoin de le mettre dans une case. Ça, c'est un bon exemple de ce qu'on peut appeler des biais de reconnaissance de pattern ou de modèle mental. Les pays européens se disent « ce truc-là ressemble à la grippe ». Les pays asiatiques se disent « ce truc-là ressemble au SARS ». On a des réactions complètement différentes. On a d'emblée des réactions beaucoup plus prudentes en Asie qu'en Europe. Une autre chose tout à fait frappante au tout début, vous vous rappelez sans doute, c'est que on a une épidémie qui ravage l'Italie. Et nous, en France, pendant plusieurs semaines, on est là à regarder ça en se disant « mais ça n'arrivera pas chez nous ». Là, on est dans l'archétype des biais de groupe, des biais d'endogroupe et d'exogroupe, où on se dit « les Italiens, c'est pas nous. Ce qui se passe chez eux, les problèmes qu'ils ont, ne vont pas nous arriver à nous ». Troisième exemple frappant pendant toute la crise, d'ailleurs, c'est l'incapacité à anticiper la croissance exponentielle. Vous avez, pendant toute cette phase de confinement et d'après-confinement, des tas de gens apparemment très sensés qui disent « mais pourquoi diable est-ce qu'on n'augmente pas de 50% la capacité de nos hôpitaux ? Si on augmente même de 100% la capacité de quoi que ce soit face à quelque chose qui double en 3 jours ou en 8 jours, bah on a gagné 3 jours ou 8 jours. Et si on le laisse doubler une deuxième fois, on est de nouveau complètement débordé. » Donc en fait, on n'arrive pas à se pénétrer de l'idée qu'on est face à un phénomène qui a une croissance exponentielle. Ça, c'est un biais très, très bien ancré. L'incapacité à prendre en compte la croissance exponentielle, c'est du lourd. On est habitué aux droites, on est habitué aux choses qui croissent de manière linéaire. Ça nous amène à un quatrième biais tout à fait frappant, c'est que quand on demande aux scientifiques, aux experts, aux épidémiologistes, au début de l'épidémie, à votre avis, combien il va y avoir de cas ? Non seulement ils se trompent dans les grandes largeurs, mais ils se trompent avec une très grande confiance. Je me rappelle une étude qui est faite en mars 2020 auprès d'une vingtaine d'épidémiologistes américains parmi les plus éminents, hein, de Harvard, de Johns Hopkins, du National Institutes of Health, etc. Et on demande à chacun, dites-nous combien il y aura de cas de Covid aux États-Unis dans 12 jours. Mais donnez-nous aussi une fourchette. Allez-y, dites-nous dans quelle mesure vous êtes dans l'incertitude. D'une part, ils se trompent tous, ou en fait tous, oui, sans exception, dans le sens de l'optimisme. C'est-à-dire qu'ils vont sous-estimer considérablement le nombre de cas, mais surtout, l'immense majorité de ces épidémiologistes, tous sauf deux ou trois de mémoire, vont donner une fourchette beaucoup, beaucoup, beaucoup trop restreinte. Donc, plus on est expert, plus on va avoir tendance à surestimer ce qu'on sait, et plus on va avoir tendance à être trop précis et à faire des prévisions qui sous-estiment le degré d'incertitude. Donc, même quand vous n'avez aucune pression, aucune incitation à être précis, aucun bénéfice à faire une prévision précise et catégorique, vous allez avoir tendance à être trop précis et trop catégorique. Or, quand vous êtes un expert qui passe à la télé, ou quand vous êtes simplement un expert qui parle à ses collègues ou qui conseille le gouvernement, dire que vous ne savez pas, c'est très dur. Normalement, quand une connaissance scientifique finit par être produite, elle est relativement protégée contre les biais des gens qui les ont produites. Pas parce qu'ils n'ont pas de biais, mais parce que les biais des uns ont compensé les biais des autres, les biais des uns ont été critiqués par les autres, les erreurs provoquées par ces biais ont été débusquées par des gens qui ne sont pas ceux qui les avaient commises, et c'est comme ça que vous allez arriver à avoir une connaissance scientifique. Parce qu'on a de la critique, on a de la peer review, on a des articles qui se contredisent les uns les autres, et on a une construction progressive de la vérité scientifique qui émerge par la contradiction, par le débat, par le test empirique des hypothèses qu'on peut avoir, par le fait que les gens reconnaissent qu'ils se sont trompés ou qu'on leur prouve qu'ils se sont trompés s'ils ne le reconnaissent pas. Et c'est comme ça que la vérité scientifique émerge.
Le peer reviewing, c'est-à-dire la relecture par les pairs, c'est crucial dans le processus de publication qui est un des piliers de la construction de la connaissance scientifique. Et ce processus, il a été mis à mal au moment de la pandémie. Et c'est un facteur de confusion très important autour de la vérité scientifique pendant la période de la crise Covid.
Attends. Je te propose qu'on commence par se pencher sur comment la publication se passe en temps normal. Des scientifiques ont effectué une recherche et ils et elles veulent recevoir une validation de leurs résultats par la communauté. Donc, ils soumettent leur article à une revue scientifique. L'équipe éditoriale du journal, composée elle-même de scientifiques, recherche des relecteurs. On les appelle les reviewers. Ces reviewers, ce sont des experts du sujet qui vont rendre de façon anonyme un avis critique, argumenté sur le manuscrit. C'est ça qu'on appelle le peer reviewing, la relecture critique par les pairs. Les pairs font ensuite des propositions d'amélioration de l'article, peuvent demander des informations supplémentaires sur les expériences présentées, ou carrément demander que de nouvelles expériences soient faites. Les pairs peuvent aussi recommander le rejet de l'article. notamment quand il juge insuffisante la qualité des données présentées et des conclusions. Au final, l'article ne sera en général publié dans une revue qu'après des révisions successives, quand l'ensemble des reviewers et l'éditeur donneront leur accord sur la version révisée. L'ensemble du processus prend en général plusieurs mois, et il est fréquent de retravailler de nombreuses fois sur l'article au fil des soumissions à plusieurs revues successives avant qu'il ne soit accepté. La première chose qu'il s'est passée au moment de la pandémie, c'est une véritable explosion des articles sur le Covid, avec en 2 ans et demi environ 300 000 publications touchant de près ou de loin à ce sujet. Ça fait 10 000 publications par mois en moyenne. Dans ces conditions, si l'on admet qu'un expert en coronavirus peut reviewer correctement 2 articles par mois en plus de son travail habituel, ce qui est déjà beaucoup, et que l'on prend en compte que, avant cette crise, les experts dans le domaine étaient très peu nombreux, on conçoit que la plupart de ces articles ont été publiés sans bénéficier de la relecture critique d'au moins un expert des coronavirus. C'est une situation très inhabituelle et pas du tout souhaitable. Autre effet négatif de la situation, afin de faire circuler l'information rapidement, et puis aussi d'être les premiers à publier sur certains aspects du sujet, les journaux ont souvent raccourci le délai moyen d'acceptation des articles sur la thématique Covid à 1 semaine, et parfois même à 1 journée. Ça, c'était en particulier en 2020, et ça a forcément eu un impact sur la qualité du travail de peer reviewing. Sans surprise, le taux de rétractation des articles Covid, c'est-à-dire des articles qui sont retirés a posteriori de la littérature médico-scientifique, est beaucoup plus important que ce que l'on observe habituellement dans le domaine de la virologie. Et ça indique vraisemblablement qu'une bonne partie de la littérature scientifique Covid est de qualité médiocre. Pour un article retiré, combien reste ? Un autre aspect inédit qu'a évoqué Claire Delnat, c'est l'explosion du nombre et de l'activité des sites de prépublication. Initialement, ces sites de prépublication étaient destinés à permettre à des chercheurs de présenter leurs données en amont du processus de publication pour bénéficier de critiques permettant d'améliorer les articles. Mais en 2020, ils ont servi à mettre en circulation en accès libre des données non validées par le processus universel de peer reviewing. Et pour finir, l'émergence de ce chaos a créé le terrain idéal pour la prolifération des journaux prédateurs. De quoi s'agit-il ? Les journaux prédateurs, ce sont des journaux dans lesquels en général on paie pour publier et qui privilégient leurs intérêts propres au détriment de la qualité de la connaissance scientifique. Comment les reconnaître ? Alors, ils se caractérisent par de déviations par rapport aux recommandations de bonnes pratiques éditoriales et de publication, mais aussi par un manque de transparence, et enfin par des sollicitations agressives et non ciblées auprès des chercheurs et des chercheuses.
Entre les difficultés à effectuer une validation dans les règles de l'art par le peer reviewing consensuel, la mise en ligne d'articles scientifiques non validés, la prolifération des revues prédatrices, le système de publication-validation complètement dépassé, on s'est retrouvé dans la situation d'une circulation massive d'informations, dites scientifiques, mais non validées par la communauté scientifique. Ici aussi, la pandémie a laissé des traces. Il faut rebâtir là-dessus.
Il y a une histoire amusante de la vigilance épistémologique dans les sciences humaines, avec des chercheurs qui testent le peer reviewing par le canular. Le premier à faire ça, ça a été le physicien Alan Sokal. En 1996, il réussit à faire publier par la revue Social Text de la Duke University Press un article intitulé « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique ». L'article n'a ni queue ni tête, et selon Sokal, il est généreusement assaisonné de non-sens qui A, sonne bien, et B, flatte les préconceptions idéologiques des éditeurs. Estimant que l'absurdité de son article est évidente, le jour de sa parution, Sokal conclut que la revue méconnaît les règles de la rigueur intellectuelle, puisqu'elle s'est permis de publier un article sur la physique quantique sans prendre la précaution de consulter un spécialiste du domaine. En plus de l'explosion du nombre d'articles scientifiques sur le Covid, de la multiplication du nombre et de l'activité des sites de prépublication, un troisième facteur, c'est l'importance que les réseaux sociaux ont jouée dans la dissémination de la connaissance scientifique. La nature même de leur fonctionnement, personnalisée pour chaque utilisatrice, a pu nous faire perdre accès à des informations contradictoires, nous enfermer dans une bulle.
When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
That's not by accident, that's a design technique.
C'est ce que le cyberactiviste Elie Pariser appelle la bulle de filtre. Il explique que sur les réseaux sociaux, aussi bien que sur les moteurs de recherche, l'information nous parvient par différents filtres. Ces filtres sont conçus à partir de différentes données comme notre historique, nos clics, nos interactions sociales, afin de prédire ce qui sera le plus pertinent pour nous. Si les algorithmes considèrent qu'une information n'est pas pertinente pour un ou une internaute, elle ne lui sera simplement pas présentée. Cette théorie, longtemps débattue, a été appuyée en 2020 par d'anciens cadres dirigeants, ingénieurs ou fondateurs de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google, venus témoigner avec inquiétude dans le documentaire Netflix « Derrière nos écrans de fumée ». La conséquence de cette bulle de filtre, c'est qu'on se retrouve retranché dans un état d'isolement intellectuel, confiné dans notre vision du monde et nos croyances. Nous avons alors moins de chances d'être exposés à une information qui nous stimulerait ou élargirait notre vision du monde. Et moins de chances de tomber sur des faits qui réfuteraient des informations fausses partagées par d'autres. Nous sommes enfermés dans une sorte de prison intellectuelle, réconfortante et excitante à la fois, confirmant tous nos avis, toutes nos indignations et tous nos préjugés.
Je m'appelle Aurélie Jean, je suis docteur en sciences et entrepreneur. Sur les réseaux sociaux, on peut aller transmettre de l'information, quelle qu'elle soit, sans qu'il y ait un système de vérification par nos pairs ou par d'autres individus, à part le fait que d'autres gens vont aimer, partager ou commenter vos contenus. En fait, il n'y a pas de hiérarchisation au regard de la qualité du contenu ou de la vérité scientifique du contenu, mais davantage au regard de la popularité du contenu. C'est-à-dire qu'un contenu qui va être partagé beaucoup plus sur des temps courts massivement par énormément de personnes va être davantage mis en avant. Donc ça a des implications directes sur la vérité scientifique, puisqu'en fait, on va avoir des contenus qui seront beaucoup plus transgressifs, polémiques, voire complotistes, qui vont être partagés, puisqu'en fait, on sait que les contenus transgressifs, polémiques ou complotistes sont davantage partagés, ils font réagir les gens. Un autre point sur les algorithmes de recommandation et de suggestion de contenu, ce n'est pas lié à la popularité strictement du contenu, mais lié à vous-même en tant qu'utilisateur. Ce qui existe sûrement sur ces réseaux, c'est ce qu'on crée, on appelle ça des algorithmes de catégorisation. Donc on va catégoriser les utilisateurs en fonction de similarités statistiques. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va faire littéralement des classes. Donc ça se fait par apprentissage statistique. C'est un algorithme d'apprentissage classique qui existe depuis très longtemps. Moi-même, je les utilise tous les jours, ces algorithmes. Ils ne sont pas mauvais. Ça, c'est très important. L'algorithme n'est pas mauvais ou bon. C'est la manière dont on va l'utiliser, en fait, qui va faire que les conséquences sont mauvaises ou bonnes. Tout ça pour venir ensuite vers un effet qui est très connu, qui est l'effet bulle. Vous pouvez vous retrouver dans ce qu'on appelle une bulle d'opinion et d'observation du monde. Ce n'est pas nouveau. Les bulles sociales existent depuis l'histoire de l'humanité. La bulle étant d'abord la famille, puis aujourd'hui, ça va être les écoles dans lesquelles on va, notre groupe d'amis, notre groupe professionnel. Enfin, c'est quand même... La bulle a toujours existé. La profonde différence avec la bulle sur des réseaux sociaux comme Twitter, par exemple, et ça pourrait être encore plein d'autres réseaux, c'est qu'en fait, l'effet bulle n'est pas une fatalité. Mais il existe et on peut l'éviter. Aller dans le sens de casser l'effet bulle irait en fait contre le modèle économique de ces plateformes. Donc moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Ça veut dire qu'ils doivent modifier, ils doivent revoir le modèle économique, qui, je pense, en plus, n'est pas durable. Il y a des choses à faire évoluer dans le bon sens pour faire que ces réseaux continuent à vivre et ne menacent pas tant la démocratie que le débat public, que la vérité scientifique.
Pour faire évoluer les choses, le sociologue Gérald Bronner, dont nous avons déjà parlé, argumente dans son livre « Déchéance de la rationalité » en faveur d'une militance citoyenne sur Internet. Plusieurs études de la Web Science ont en effet démontré qu'un faible nombre de personnes motivées peut influencer l'opinion sur Internet de façon beaucoup plus efficace que dans la vie sociale physique. Ainsi, le chercheur Walter Quattrociocchi a prouvé que sur le réseau Facebook italien, les conspirationnistes laissaient 3 fois plus de traces que les défenseurs de contenus scientifiques. Alors ça ne signifie pas que les premiers sont 3 fois plus nombreux, mais simplement qu'ils sont 3 fois plus actifs. Les propositions conspirationnistes qui étaient avant confinées dans des marges de radicalité bénéficient maintenant d'une visibilité impressionnante, qui peut convaincre les plus impressionnables d'entre nous. Bien sûr, Bronner ne défend pas l'idée d'interdire à ces minorités de s'exprimer, mais il veut nous interroger. Internet est-il vraiment ce rêve d'accès démocratique à l'information ? Selon les Web Sciences, si Internet est une démocratie, certains y votent 1000 fois, tandis que d'autres, jamais. Quand allons-nous utiliser notre droit de vote sur Internet ? John Stuart Mill l'écrivait au milieu du 19e siècle.
Le mal n'a besoin de rien d'autre pour parvenir à ses fins que de l'inaction des gens de bien.
Pour Bronner, si chaque citoyen-citoyenne acceptait de consacrer quelques minutes de son temps hebdomadaire à répondre aux âneries qui se répandent sur les réseaux sociaux, les forums et ailleurs, on contrebalancerait le poids des croyants qui, eux, militent de cette façon quotidienne. Je suis d'accord avec lui, mais en tant qu'activiste engagée sur les réseaux sociaux pour défendre l'égalité de genre, je peux pas m'empêcher de faire remarquer que cette militance peut parfois être coûteuse. Les violences sur Internet ont un problème de grande ampleur. Alors, militance, oui, mais en s'outillant, en s'entourant, bref, en prenant soin de soi.
Et puis, il y a la question de la militance pour la rationalité quand on est soignant. Comment, quand tu sors des études de santé, tu te débrouilles pour rester au fait de la vérité scientifique? Avec toutes les publications, ça peut être un très gros boulot, chronophage. Puis une fois que tu as un bagage scientifique solide, comment tu fais entre ce bagage scientifique d'un côté et ce qui se passe dans la vraie vie de l'autre? Et surtout, comment tu parles aux patients qui adhèrent à ces contre-vérités dans le contexte actuel de défiance pour ne pas perdre le dialogue avec eux? Où est-ce que tu apprends ça? Comment essayer de s'accrocher à la vérité scientifique tout en étant pragmatique dans la gestion du lien, de la relation de soins qui est si importante pour l'alliance thérapeutique?
Je m'appelle Céline Loipre, je suis médecin dans un centre d'investigation clinique, c'est là où on fait les essais cliniques, et je suis maître de conférence à Sorbonne Université, enseignante en neurologie.
Je m'appelle Martin Dress, je suis maître de conférence des universités et praticien hospitalier à Sorbonne Université. Et je travaille à la Pitié-Salpêtrière dans le service de médecine intensive réanimation. Comment je m'y prends pour rester à jour de l'actualité scientifique? Alors, je vais être humble, hein, parce que c'est pas facile comme question. Ce que je fais majoritairement, c'est discuter avec les confrères. Je trouve que finalement, discuter, confronter ses idées, c'est une façon de rester à jour, d'être au courant d'un papier scientifique récent qui vient de sortir ou qui va sortir, ou quelque chose qui jusqu'à maintenant était peut-être relativement encore peu connu. Quand on n'a pas la possibilité, en tout cas facilement, de pouvoir s'adresser à un expert, une experte de la question, je vais très rapidement sur les moteurs de recherche dédiés, type PubMed, par exemple, qui me permet de dire que finalement l'information est fiable. Bah, ça va être la qualité du journal. Est-ce que c'est un journal qui est connu, qui est lu? Donc, quand je tombe sur des journaux qui sont que je ne connais pas, je regarde voilà le niveau de publication du journal, l'impact factor, qui a publié dedans, qui sont les éditeurs aussi.
Je crois qu'il est vraiment important d'avoir un regard critique, parce que même quelqu'un qui est une sommité du domaine peut parfois faire passer un message erroné ou pas tout à fait correct. Quand on est en train de lire un article, même si c'est un article dans une revue de la presse générale et que c'est un professeur d'un grand hôpital, par exemple, qui l'a écrit, il faut savoir si c'est son opinion, si c'est basé sur un consensus d'experts et capable d'aller chercher d'où est-ce que vient cette opinion. Quand un soignant veut acquérir des connaissances, et sur, en l'occurrence la vérité scientifique, il est recommandé déjà de retourner à la source des données, c'est-à-dire les données les plus brutes, les plus pures. Donc l'important, c'est de croiser les sources. Maintenant, ça prendrait beaucoup de temps d'aller lire tous les articles. Et là, c'est le rôle un peu des spécialistes du domaine d'aller aussi expliquer à leurs collègues ou au grand public d'ailleurs aussi comment interpréter leurs données, tout en se mettant à leur niveau pour qu'eux-mêmes puissent le transmettre aussi aux patients, avec leurs mots.
Quand on n'a pas la possibilité de chercher rapidement les informations, il y a un moyen d'accès qui est intéressant, c'est les sociétés savantes ou les agences nationales, type AFSAPS, l'agence ou les agences du médicament, enfin toutes ces agences qui finalement développent des documents, soit de consensus, soit des guidelines pour proposer des prises en charge ou des algorithmes décisionnels. Et ça, c'est a priori des informations qui sont fiables, qui ont été validées par des experts.
Parfois, la relation de soins avec les patients, elle est émaillée d'épisodes dans lesquels on doit transmettre nos connaissances ou expliquer nos connaissances pour, par exemple, choisir un traitement de façon conjointe avec le patient. Et de temps en temps, on se retrouve confronté à des croyances ou des opinions des patients qui sont pas en concordance avec ce que nous, on a à transmettre comme message. C'est une situation qui est difficile parce que on pense en fait à l'avenir du patient, à ce qui pourrait lui arriver, et en même temps, on a besoin de garder cette relation de confiance pour que le patient puisse adhérer à notre recommandation. Il y a quelques années, dans le domaine de la sclérose en plaques, on a été confronté à une situation un petit peu difficile qui était celle de l'hypothèse que la sclérose en plaques pouvait être due à un problème de circulation veineuse. Et ni une ni deux, il y a eu des cliniques qui se sont montées pour aller ouvrir les veines des patients. C'était quelque chose où on se disait « ça tient pas la route », mais en même temps, peut-être qu'on devrait quand même creuser. Et donc, on s'est retrouvés en parallèle à essayer de faire de la science et à essayer d'essayer d'expliquer aux patients que nous, on ne pouvait pas dépenser 10 000 euros dans une clinique je ne sais où pour aller se faire ouvrir les veines. On était face à la détresse sur le handicap neurologique pour des patients qui avaient des formes parfois très graves pour lesquelles on n'avait aucun traitement à leur proposer. Mais des patients qui nous disaient « mais de toute façon, j'ai quoi à perdre ?» Et puis, ça tient la route. Regardez, c'est un scientifique, ça a été publié dans un grand journal. J'ai même un patient qui m'a dit « mais vous avez déjà publié dans ce journal ?» J'étais jeune chef de clinique, je n'avais pas encore publié dans ce type de journal. Et j'ai dit « non, effectivement, je n'ai pas publié moi dans ce journal, mais vraiment, je préférerais que vous attendiez un petit peu, que d'autres équipes aient éventuellement posé la question, etc. » C'est important de garder le fil quelque part. C'est-à-dire, ok, j'ai pris du temps pour vous expliquer certaines choses, mais je vois que vous avez des doutes sur ce que je vous ai émis. On se revoit et on en reparle. Et rien que de voir qu'il y a ce suivi, ça permet aux patients de se raccrocher à nous, nous comme êtres humains, en fait. Mais il faut vraiment pas casser ce fil. Je crois qu'il faut se raccrocher au moindre regard ou petit mot de fin de sortie, de fin de consultation qui nous permet de faire en sorte que les patients vont revenir et qu'on va pouvoir réessayer. Et avec le temps, on peut faire passer des messages.
Il faut écouter, je crois. Et il faut écouter les patients, ce qu'ils disent, et parfois la représentation qu'ils ont soit de la maladie, soit de leur traitement. Et on se rend compte souvent que en fait, le temps qui est consacré à la parole des patients, c'est très réduit dans un entretien. Nous, on s'en est rendu compte en réanimation quand on parle avec les familles, en mesurant de manière quantitative, c'est moins de 10% qui est consacré aux familles. Au début de la prise en charge du Covid, les familles nous demandaient « mais pourquoi vous n'utilisez pas l'hydroxychloroquine ? Pourquoi vous n'utilisez pas tel traitement ?» On a vraiment eu ce parti pris qui était de dire assez facilement quelque chose qui, au départ, peut pétrifier, quand on a des familles qui sont en attente d'informations, on leur dit « écoutez, en fait, on ne sait pas ». Et c'est vrai qu'il y a eu un basculement, c'est ce que j'ai observé, où le fait de reconnaître nos limites, en toute transparence et en toute honnêteté, a permis, paradoxalement, une adhésion à notre parole, à notre discussion, à notre justification de notre stratégie, qui était beaucoup plus acceptée par les familles.
J'aime cette stratégie de l'humilité et de la transparence de Martin Dress. La philosophe Claire Delnat, elle, considère que la fragilité de la vérité scientifique est carrément sa force.
Moi, je suis toujours très rassurée quand un médecin me dit qu'il ne sait pas, parce qu'il n'y a rien que je trouve plus effrayant que cette espèce d'assurance qui ouvre la voie, en fait, aux erreurs et aux mauvais traitements. Je trouve que assumer cette ignorance, assumer le fait qu'on ne sait pas tout, peut-être pour différer la réponse d'ailleurs, ou pour orienter, dire « écoutez, je reviens vers vous », ça je ne sais pas. Il y a quelque chose de très rassurant et qui inspire la confiance. Depuis le début, on parle de fragilité de la vérité scientifique. Quand on prétend en avoir fini avec une question, c'est qu'on est précisément dans la conviction, dans l'opinion, dans la conviction dogmatique. L'esprit scientifique est un esprit sceptique. Nos théories sont simplement des tentatives pour le cerner, pour le comprendre, pour l'approcher, mais qu'on ne peut jamais pleinement vérifier l'adéquation de nos théories au réel. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on appelle les scientifiques des chercheurs. Parce que par définition, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Quand on pense que nos théories sont vraies et définitives, précisément, on n'est plus dans la recherche. On n'est plus un chercheur.
Le Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série Programme B en partenariat avec la Faculté de médecine Sorbonne Université, écrit par Olympe Degé et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosaine Le Saint, réalisé par Elisa Grenet et produit par Anaïs Daïka. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.